Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors la semaine dernière, nous avons vu Nouvelles histoires incroyables mais vraies à Périgueux de Martine Balou. Alors je rappelle qu'elle était directrice du patrimoine de Périgueux, ville d'art et d'histoire de 1987 à 2022, conférencière, guide national agréé du ministère de la Culture, créatrice d'histoire citée, entreprise de visite, de visites sur mesure et insolites, passionnée d'histoire et d'architecture. Elle intervient dans la diversité des patrimoines et c'est le faire partager, auteur de plusieurs ouvrages et de chroniques littéraires. Alors, on avait vu, alors ce livre m'a été envoyé d'ailleurs très aimablement par la Geste Édition et le service de presse. Alors, on a vu, je crois, la tour Mataguer, si mes souvenirs sont bons. Mais il y a eu avant un autre livre qui s'intitulait « Histoire incroyable mais vraie à Périgueux », donc qui est récent aussi, qui est édité également par la Geste en 2023 et qu'on peut encore trouver certainement en bibliothèque. Alors, la quatrième de couverture nous dit « Laissez-vous entraîner dans des histoires rocambolesques, méconnues, qui se sont déroulées à Périgueux, revivez des événements cocasses, solennels ou mémoriels, retrouver des personnages célèbres hors du commun. Les archives de la presse départementale et nationale sont une mine inépuisable de témoignages de faits divers et événements qui ont marqué des périodes de la vie quotidienne à Périgueux. Les articles dans différents supports, écrits locaux, comme les annales littéraires de la Dordogne, des Côtes-Vézone, l'avenir du Périgord ou Périgueux illustré constituent des outils précieux pour mener l'enquête tel un véritable détective du patrimoine. Alors, évidemment, c'est de Martine Balou. Alors, il y a une préface, je pense qu'on avait déjà vu un peu ce livre il y a quelque temps. Alors, il y a une préface qui nous dit qu'on fait une histoire, un journal, une guide conférencière qui connaît sa partition sur le bout des doigts, après deux premières collaborations qui ont donné vie aux chroniques du patrimoine à Périgueux, des décors, des lieux et des hommes, sous l'œil avisé de Rémi Philippon, photographe à la Dordogne libre, et autres fins connaisseurs des lieux, telle une évidence, Dordogne libre et Martine Balou se devaient de partager l'ensemble, et à leurs lecteurs, de nouveaux récits dont regorge le Périgord, tout particulièrement Périgueux. Il aurait été plus facile de ressasser les plus connus, vus et revus, disponibles dans de nombreux ouvrages. Il était plus audacieux de s'intéresser à ce qui restait jusqu'alors dans l'ombre, comme ce jour à Périgueux faillit devenir une vraie ville de corrida en 1866. Il était plus ambitieux de leur donner aussi toute la lumière à travers la plume de son auteur, toujours avide de savoir et de transmission. Donc il savait qu'André Noël, alias Noël, maître cuisinier du roi de Prusse, était né en 1726 au quartier Limogène, que le mini Buffalo Bill était passé par Périgueux en 1897, que Victor Hugo y avait également séjourné en 1843. Alors, Victor Hugo, on va y revenir. Je crois qu'on l'avait fait peut-être une fois d'avant, mais c'est quand même intéressant de savoir ce que Victor Hugo quand même pensait de Périgueux, et surtout en 1843. Alors, donc je reprends la lecture, ou encore Raymond Poincaré, en 1913, preuve de l'attirance du grand nom de l'histoire pour la capitale périgourdine, ce livre comme ça guide déniche dans les moindres détails les recoins du passé. Une histoire qui, loin d'être finie, demande qu'à être goûtée pour mieux apprécier le présent. Donc, bonne lecture. Et c'est signé Renaud Salacro, rédacteur en chef de la Dordogne Libre. Alors, bien sûr, il y a un sommaire. Alors, il y a 10 histoires, il y en a en avoir quelques-unes. Alors, le numéro 10, c'est les riches heures de l'industrie alimentaire dans la capitale du Périgord. Alors, pour nous, cette fois-ci, on va voir un peu Victor Hugo, on va rappeler un peu ce que faisait Victor Hugo de passage à Périgueux. Et il y a une très belle, une très belle reproduction de Jules Drouet, évidemment, parlée en Noël en 1823, et elle était très très brune, avec de très jolis cheveux, et pas mal non plus. Voilà, alors donc pour revenir à des histoires un peu contemporaines, après le voyage effectué en 1840 dans la vallée du Rhin, avec Julienne Drouet, sa maîtresse, Victor Hugo, a l'idée de se rendre dans le sud-ouest et en Espagne pour une nouvelle escapade amoureuse en sa compagnie. Le 18 juillet 1843, il quitte Paris et arrive deux jours plus tard à Bordeaux où commence son journal. De là, il sera à Bayonne, Biarritz, Saint-Sébastien, Pampelune, franchissant à nouveau la frontière française, il se dirige vers Pau-Canteret, s'attarde quelques jours dans les Pyrénées avec des excursions à Luz, Gavarni, au lac de Gorbe. Il reprend le chemin du retour, Auch, Agen, Périgueux, Cognac, Saintes et Rochefort. C'est dans cette ville, le 9 septembre, en lisant un journal, qu'il apprend la noyade à Villequier. Villequier, c'est une ville de la Seine-Maritime, de sa fille Léopoldine, le lundi 4 septembre. Un drame qui le marque profondément et va provoquer dans sa vie et son œuvre une véritable césure. Ce même lundi noir, le 4 septembre, en soirée, la malposte Brisca, qui assurait le service postal entre Pau et Limoges, remonte à la place de Prusse, c'est-à-dire la place Rocheville actuelle, avec deux passagers, Victor Hugo et sa maîtresse, Juliette Drouet. Le Brisca, nom polonais signifiant chariot léger, consistait en une voiture à quatre routes menées par trois chevaux légers. L'avant de la voiture de la dimension d'une calèche formait coupé. Tandis que l'on relayait les chevaux et ils mettent pied à terre et sont conduits à l'hôtel Gros de Bel Air construit en 1783 par le chanoine Jean-Baptiste Michel Duclos, à son retour d'Italie, est entré dans la famille Gros de Bel Air par alliance. Il est la résidence du général commandant d'une division militaire implanté à Périgueux au XIXe siècle et ami de son père, le général Hugo. En cet hôtel fut aussi en 1944 au siège de la milice où les résistants seront enfermés dans les caves. Failli être détruit en 1957, la ville l'avait acheté pour y faire construire un nouveau théâtre, sauvé grâce à la Société historique et archéologique. En 1958, cette demeure est orientée au sud par un transfert de l'architecte André Secret. L'entrée d'abord située 2 avenue Georges Pompidou se trouve aujourd'hui face à l'allée de Tourny. La demeure, façade et toiture sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques depuis le 9 novembre 1960. Le jour et le lendemain, ignorant la tragédie qui venait de coûter la vie à sa fille et son gendre, Victor Hugo visite Périgueux. Alors, il y a quand même quelques très belles photos, comme le reste du livre d'ailleurs, qui illustrent ce texte. Donc, Victor Hugo évoque d'une manière pittoresque et romantique la ville rousse, avec de précieux détails. À cette fois, il décrit une première tour carrée qui servait de porche comme étant aujourd'hui enfoui dans un pâté de maison. Un boulanger l'habite et loue les 4 étages à de pauvres familles qui font sécher leur linge à ses fenêtres bâties par les Templiers. Et des forteresses pour des moines soldats, cette première tour franche, on est dans une cour étroite où se dresse le clocher, admirable tour romane. Alors, bien sûr, il y a des pilastres presque romains, au sommet de cordons, de colonnettes serrées les unes contre les autres, portant une tiare de pierre, forme rude, originale et rare. Dans l'intérieur de l'église, à gauche, magnifique hôtel de bois du temps de Louis XIII. Et c'est l'Assomption. Leur figure éblouie des apôtres, colonnes torse ou grimpe et monte en spirale des anges, des oiseaux, des écureuils, des aigles, tout un monde fantastique. Dans toute l'église blanchie à la chaux, colonne corinthienne du IXe siècle, 4 énormes piliers carrés, percés de couloirs en croix, archivoltés, porte la coupole centrale, qui est ovale, comme un Orient. Alors, bien sûr, c'est le texte de Victor Hugo. Alors, l'église a la forme d'une croix grecque, à 5 coupoles. Alors, en montant au clocher, il faut s'arrêter à moitié chemin, visiter le dessus de la voûte de l'église, très curieux, charpente, poussière, évidemment, caverne, sculpture, frustre, colonnes tronquées qui ressemblent à des momies debout dans leur étui adossé au mur, des échelles, des trous carrés, anciennes alvol de clochers rasés, les 5 coupoles étant découvertes au siècle dernier. On a bâti un toit dessus, de là cet intérieur étrange, mélange de hasard et d'architecture qui rappelle les cauchemars de Piraèse, le dernier évêque, M. Gousset, aujourd'hui archevêque de Reims, a démoli le cœur roman pour agrandir son jardin. Voilà, pour chacun va vers, vers ce qui est le plus important pour lui. Alors, donc c'est le texte de Victor Hugo, hein, je le précise. Alors, du haut de la tour, on voit toute la ville, vénérable à main de pignons et de tourelles, un de ces labyrinthes des toits aigus, où apparaît dans toute sa fantaisie le génie fantasque et riche du XVe siècle. Le paysage étant de part une ville rousse, une plaine verte, l'Isle, jolie rivière, marque la séparation, un cercle de collines borde les clos, le bassin, au fond on aperçoit, à l'extrémité d'une rue qu'on appelle la rue des vieux cimetières, la tour de Vésune, qu'on appelle maintenant la tour de Vésone. Ancien temple de Vénus, il est sur la hauteur, les vagues contours du champ de César, le toit bâti au dernier siècle, cache les coupoles et gâte la silhouette de l'église. L'herbe croît sur le clocher, on monte d'échelle en échelle du cocon de colonnettes, quelques-unes sont en marbre, au dehors, le temps a creusé dans la pierre des bénitiers que la pluie prend soin de tenir plein, sous l'église, une crypte qui est pleine d'ossements. Alors Victor Hugo, amoureux et grand défenseur des patrimoines français, explore la cathédrale Saint-Front, 10 ans avant sa reconstruction par Paul Abadie. En 1760 et 1764, les coupoles en très mauvais état prennent l'eau. Elles sont recouvertes d'une charpente habillée d'ardoise à la demande de l'évêque Macheco de Prémont. Et il y a dans ce livre une très belle photo de la tour de Vésone. Alors, dans la ville gallo-romaine, il est subjugué par la tour qui qualifie de Vésune. Alors, Victor Hugo, évidemment, temple de Vénus, dont le Moyen-Âge avait fait un lieu patibulaire, c'est là qu'on pendait les criminels, énorme tour bâtie en petites pierres. Il y avait un revêtement de marbre qui est tombé. Cette tour est ventrée au levant, perpendiculairement, comme le château que faisait démanteler le cardinal de Richelieu. Et c'est grande qu'on irait un petit cirque, elle est dans une vigne où l'on entre par une porte qui met une sonnette en mouvement. Le propriétaire en tire ainsi quelques sous. Tronçons de colonnes romaines, champs de maïs, cèpes, vergers, j'ai trouvé dans l'intérieur de la tour le charmant débris de la Renaissance mêlé aux décombres antiques. Gazon, petite éminence gazonnée, où l'on plantait la potence. 4 plafonds indiqués encore par des arrachements dans la muraille sont effondrés successivement au lieu même où fut le gibet, à côté d'une pierre qui ressemble à un autel romain. Gît un ravissant débris de la Renaissance que le hasard a brisé en forme de croix. La salamandre est au milieu et 2 anges pris de chaque côté. Le XVIe siècle avait donc construit quelque chose, la chapelle ou hôtel sans doute, à côté même de la tour de Vésune. Le gazon est couvert de scabieuses et de ciguës en fleurs. Il y avait autour de ce qui reste debout de la tour 9B archivoltée qu'on a muré avec de la brique. Voilà, alors, comme je disais, il y a quand même quelques très belles photos tirées bien souvent de cartes postales, comme le château de la famille de Barrière, collection privée, évidemment, ou la rue Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, il va continuer, bien sûr, son voyage. Alors, les terrains entourant la tour de Vésone avaient été achetés en 1826, à la ville, actuel jardin de Vésone, par Villegrine de Taillefer, pionnier de l'archéologie périgourdine. Voilà, alors je vais arrêter là cette lecture, et puis écoutez, le mieux c'est de vous procurer Nouvelles histoires incroyables mais vraies à Périgueux, de la Geste Édition, et écrit par Martine Balou. Et puis il y a, je pense qu'on peut toujours trouver en librairie, Histoire incroyable mais vraie à Périgueux, également de Martine Balou et la Geste Édition. Voilà, et bien quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, n'ayez pas trop chaud, et à la semaine prochaine. Voilà, au revoir.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.